Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. L'Algérie célébrera ce mardi le 60e anniversaire de son indépendance, une indépendance arrachée après 132 ans de colonisation française. Notre invité sera le sénateur Loïc Hervé, vice-président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat. À l'approche de cet anniversaire, des membres de l'association Josette et Maurice Audin se sont rendus en Algérie le mois dernier pour contribuer à renforcer les liens de solidarité entre les peuples algériens et français. Son président, Pierre Mansa, sera l'un de nos invités. Le juriste chargé de la rédaction d'une nouvelle constitution en Tunisie a publiquement désavoué le texte publié par la présidence, texte dont l'adoption sera soumise à référendum le 25 juillet prochain. Nous écouterons Mohamed Kérou, professeur de sciences politiques à l'université El Manar de Tunis. La composition du gouvernement français a été remaniée ce lundi. Les ministres battus aux dernières législatives quittent le gouvernement. Parmi les nouveaux entrants, le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, il devient ministre de la Ville et du Logement. Un musée unique en Europe s'est ouvert dans l'ouest du Danemark, un nouveau musée consacré aux exilés. Il s'agit de mieux raconter les histoires personnelles derrière la migration forcée. Le niveau des réserves de sang reste trop faible en France. Pour affronter l'été, l'établissement français du sang tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Le 60e anniversaire ce mardi de l'indépendance de l'Algérie après 132 ans de colonisation française, une indépendance arrachée au terme de 7 ans et demi de guerre. Entretien avec le sénateur du groupe Union Centriste, Loïc Hervé, vice-président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat.
La première des choses, quand on est à la veille d'une fête aussi importante que celle que s'apprête à fêter l'Algérie, c'est de souhaiter une bonne fête à nos amis algériens, de souhaiter que, évidemment, cette fête puisse continuer d'entretenir le lien bilatéral qui existe entre la France et l'Algérie, qui est un lien bien antérieur évidemment à cette indépendance. Et donc, à cet égard, c'est sûr que ce que le président de la République a voulu faire, notamment en confiant à Benjamin Stora cette mission, c'est de regarder notre histoire commune, l'histoire de la France en Algérie, l'histoire de la guerre d'Algérie, l'histoire de l'Algérie indépendante, pour que la relation bilatérale soit une relation apaisée de part et d'autre de la Méditerranée, et qu'on puisse, je dirais enfin, trouver une relation qui soit une relation complètement apaisée entre nos deux pays.
Des gestes d'apaisement ont été effectués justement ces dernières années à travers la remise du rapport de l'historien français Benjamin Stora et toute une série de mesures.
Comme c'est une étude de Benjamin Stora qui s'est faite sur différents aspects, ça a permis pour un certain nombre de sujets liés notamment à l'indépendance et à la guerre d'Algérie d'avoir des actions du président de la République en cette direction. Donc c'est sûr que vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis des pieds noirs, vis-à-vis des harkis, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites, exprimées par la parole publique. Il y a, vous savez, une question très importante qui est la question de l'ouverture et du partage des archives, qui sont des choses très importantes à la fois pour les chercheurs français comme pour les chercheurs algériens. Et donc ce travail de mémoire partagé, c'est un travail qui est très intéressant. Et moi je trouve que c'est très important que les historiens et tout leur rôle, c'est éminemment important que ce soit un historien de la dimension de Benjamin Stora qui ait cette mission à accomplir.
Il est important que ce travail de mémoire soit engagé sur les deux rives de la Méditerranée, en France, mais aussi en Algérie.
Ah, mais vous savez, c'est indispensable. On ne construira de relations plus fortes et plus apaisées entre la France et l'Algérie qu'au prix d'un travail de mémoire historique, de recherche, où on laissera quelque part les grandes questions politiques de côté pour pouvoir construire un avenir. Moi, je pense que l'Algérie a la vocation de devenir la Californie de la Méditerranée et que le fait que ce soit un pays francophone extrêmement proche de la France à bien des égards en termes d'histoire administrative, de culture, qu'on ait cette capacité à avoir cette chance-là de pouvoir aider à cela, moi, je trouve ça extrêmement important. Mais c'est au prix d'une relation qui doit chaque fois viser l'apaisement. Et évidemment, comme vous le savez, je suis vice-président du groupe d'amitié France-Algérie depuis maintenant 8 ans. Je me suis rendu à Alger. C'est important qu'on y arrive. Faute de quoi, d'autres puissances risqueraient d'interférer dans notre relation. Et puis surtout, ça doit permettre d'être une opportunité de part et d'autre de la Méditerranée. Donc ça, c'est vraiment un enjeu pour l'Algérie en France comme pour la France en Algérie. Donc c'est vraiment pour moi extrêmement important. C'est pour ça que tout ce qui pourrait être fait pour apaiser, pour construire une mémoire partagée, comme d'autres grandes nations qui ont pu connaître des difficultés, voire des guerres, hein, ont pu construire la paix de manière durable. L'Algérie est présente en France par une diaspora qui est extrêmement importante. La France est présente en Algérie par un certain nombre d'intérêts économiques, mais aussi par l'histoire. Et je trouve qu'on a vraiment des choses à construire ensemble qui sont très très importantes.
Loïc Hervé, sénateur du groupe Union Centriste, vice-président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat. À l'approche de cet anniversaire, des membres de l'association Josette et Maurice Audin se sont rendus en Algérie le mois dernier. Un déplacement pour contribuer à renforcer les liens de solidarité entre les peuples algériens et français. La délégation était constituée d'animateurs de l'association, de mathématiciens, d'historiens, d'une juriste et de documentaristes. Le président de l'association Josette et Maurice Audin, Pierre Mansa.
Notre objectif est bien sûr la popularisation de la mémoire de Josette et Maurice Audin. Maurice Audin, ce combattant mort pour l'indépendance de l'Algérie, et puis la dénonciation, le travail sur les crimes commis par la puissance coloniale sur le peuple algérien, et puis un travail d'échange autour des mathématiques, particulièrement avec le prix Audin. Donc à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, nous avons considéré qu'il était vraiment intéressant de se rendre en Algérie, de rencontrer des interlocuteurs officiels, mais aussi de la société civile, pour échanger sur les relations entre les deux peuples algériens et français.
La mémoire de Maurice Audin reste bien vivante aujourd'hui en Algérie.
Oui, tout à fait. Notre déplacement avec Pierre Audin, le fils de Maurice Audin, qui pour la première fois avait son passeport algérien, l'installation d'un buste Maurice Audin sur la place Audin à Alger, une place qui est là depuis 1963 mais qui n'avait jamais été inaugurée officiellement, est un geste très important pour la mémoire de Maurice Audin, mais aussi on s'en est aperçu à travers les médias algériens pour la mise en évidence du rôle qu'ont joué des Algériens d'origine européenne dans la lutte de libération nationale. Maurice Audin bien sûr, mais Raymond Péchard, Fernand Yvetot, Laban et bien d'autres encore. Donc ça a été un moment qui a permis de faire ressortir ça dans la mémoire algérienne et je pense que c'est une bonne chose.
Le Wali d'Alger a d'ailleurs fait état d'un jour important qui confirme la consécration de la grandeur et la bravoure de Maurice Audin, a-t-il dit.
Tout à fait. Le ministre des Moudjahidines nous a également reçus, a reçu Pierre Audin et moi-même, Eline Audin, l'épouse de Pierre Audin. Et il a à la fois indiqué l'importance de l'événement et annoncé qu'il allait diligenter des recherches sur les lieux où Maurice Audin aurait pu être enterré par ses bourreaux et également sur des recherches sur les charniers, les fosses, dans lesquels ont été enterrés des milliers de disparus de la guerre d'indépendance, des milliers de disparus exécutés dans des conditions sommaires, extrajudiciaires par des militaires français.
Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la question mémorielle entre l'Algérie et la France et les différents pas qui ont été faits ces dernières années par Paris?
Il y a certes des approches différentes entre les deux pays. Nous avons porté une appréciation positive en tant qu'association sur le rapport de Benjamin Stora et sur des actes qui ont été posés depuis par le président de la République, la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin et la reconnaissance d'un système institutionnalisé de torture afin de terroriser la population algérienne, la reconnaissance de l'assassinat d'Ali Boumendjel, aussi des gestes comme la gerbe à l'occasion du 17 octobre 61. Ce sont des pas qui sont très importants, mais il faut continuer à avancer. Et ce qui est important pour nous, c'est que, indépendamment des relations entre les gouvernements de nos deux pays, les liens qu'une association comme nous peut établir avec des militants de la société civile, des intellectuels, des écrivains, des journalistes, des historiens, des mathématiciens, peut jouer un rôle important sur le rapprochement entre les peuples algériens et français sur la base de gestes de solidarité et d'avancer vers une histoire mieux partagée.
Le président de l'association Josette et Maurice Audin, Pierre Mansa. Un adolescent palestinien blessé par balle samedi par des soldats israéliens en Cisjordanie occupée est décédé. Une annonce du ministère de la Santé palestinien. Cette personne âgée de 17 ans a été touchée à l'abdomen dans la ville palestinienne de Jénine. Au moins 27 personnes ont été tuées le week-end dernier au Burkina Faso Faso. C'est arrivé lors de deux attaques, des attaques qui ont visé des civils dans le nord et le nord-ouest du pays. Un taux d'inflation record depuis 24 ans en Turquie. Il a atteint 78,6% sur un an en juin dernier. Cette très forte hausse des prix s'explique en grande partie par l'effondrement de la livre turque. Elle a perdu près de la moitié de sa valeur en un an face au dollar. Le référendum le 25 juillet prochain en Tunisie sur une nouvelle constitution. Le chef de la commission chargée de la rédiger a rejeté le projet de texte présenté par le chef de l'État jeudi dernier. Le projet publié par la présidence n'appartient en rien à celui que nous avons élaboré et présenté, écrit le juriste dans le journal Asaba. Sadok Belaïd, qui est pourtant un proche du président tunisien, il affirme que le projet publié par Kais Saied renferme des risques et des défaillances considérables. Je vous propose d'écouter Mohamed Kérou, professeur de sciences politiques à l'université El Manar de Tunis.
Le texte tel que publié dans le journal officiel le 30 juin, comme c'était attendu, est un texte qui est aujourd'hui controversé. La preuve, c'est que ses rédacteurs ont déclaré, rien qu'hier, qu'il est très différent de la mouture qu'ils ont donnée au président et qu'ils ne le suivent pas dans son orientation. N'est-ce pas? Alors, par quoi se caractérise ce texte de la Constitution tel que proposé par le président? D'abord, c'est qu'il n'y a pas de séparation organique réelle entre les pouvoirs. Il y a une séparation formelle entre les pouvoirs, d'ailleurs, qui ne sont pas désignés par le terme de pouvoir, mais par le terme de fonction. D'autre part, ce texte-là entérine un pouvoir présidentiel, voire présidentialiste, puisqu'il y a non seulement l'immunité du président qui est connue, et qui est, disons, ordinaire, mais que le président ne peut pas être poursuivi durant son mandat et même après son mandat. Autre chose qui pose problème, c'est l'identité de la Tunisie. Alors qu'on attendait, comme cela a été dit, que l'islam ne figure plus dans l'article premier, ce qui est une avancée dans le sens de l'état civil, eh bien l'islam est revenu par la fenêtre, il a été chassé par la porte, il est revenu par la fenêtre. L'article 5 insiste sur l'appartenance de la Tunisie à la Oumma islamique, et bien entendu il y a également les commandements de l'islam qui y sont. Les commandements du fiqh islamique, les cinq commandements, ils sont là. Les cinq objectifs, les cinq fins de l'islam ont été mentionnés. Et en plus, l'état civil qui était dans l'ancienne constitution de 2014 a été extirpé du texte et nous n'avons plus un état civil et démocratique. Il y a donc un problème au niveau de l'identité de la nation tunisienne, à la fois l'identité politique et l'identité culturelle. Voici en gros, si vous voulez, les orientations. Bien entendu, il y a un autre point, c'est la création de deux chambres, une sorte de Sénat et une sorte de chambre basse, mais on ne dit pas comment l'Assemblée du peuple va être élue. Alors que pour le président, il sera élu au suffrage universel, ce n'est pas mentionné. Donc toutes les dérives sont possibles sur ce plan-là.
Et comment vous qualifiez le régime qui serait induit par cette nouvelle constitution si elle était votée par le peuple?
S'il y a un oui lors du référendum du 25 juillet, nous aurons une constitution qui n'est pas civile et démocratique. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne parlerai pas d'autocratie, je ne pense pas qu'il ait les moyens de l'exercer, mais ce qui est sûr, c'est que nous n'aurons pas un régime démocratique. Ce sera un régime d'autorité personnelle, de pouvoir personnel.
Vous l'avez souligné, hein, certains pères de ce projet de constitution, comme Sadok Belaïd, le président de la Commission nationale consultative pour la nouvelle constitution, renié la paternité de ce projet. C'est un élément particulièrement important et inédit dans l'histoire du pays.
Bien sûr, mais c'était attendu, parce que le doyen Sadok Belaïd n'est pas n'importe qui, il a une autorité. Il est connu, c'est un grand professeur de droit public, et il avait déjà dit qu'il publierait le texte qu'il avait soumis au président. Donc c'était attendu, mais qu'il sorte, qu'il accorde une interview au journal Sabah, et puis également au journal Le Monde, et qu'il dise qu'il se démarque tout à fait de la version présentée par le président, est à mon sens un coup de théâtre.
Mohamed Kérou, professeur de sciences politiques à l'université El Manar de Tunis. Un gouvernement remanié en France, Olivier Véran devient le porte-parole, le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, devient ministre de la Ville et du Logement, Clément Beaune est nommé au transport, le maire d'Angers, Christophe Béchu, devient ministre de la Transition écologique, le médecin urgentiste François Braun est lui nommé ministre de la Santé, les ministres battus aux dernières législatives quittent le gouvernement, idem pour Damien Abad, visé par une enquête pour tentative de viol. Il est remplacé par Jean-Christophe Combes. Le directeur général de la Croix-Rouge devient ainsi ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Marlène Schiappa fait son retour au gouvernement. Elle est chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Le niveau des réserves de sang reste trop faible en France pour affronter l'été. L'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme. L'EFS publie pour la seconde fois de son histoire et à moins de 6 mois d'intervalle un bulletin d'urgence vitale. Le niveau des réserves de sang de la France est historiquement bas dans le pays. L'établissement français du sang demande à l'ensemble des citoyens de se mobiliser massivement dans les 10 prochains jours en prenant rendez-vous pour donner leur sang. Un musée unique en Europe s'est ouvert dans l'ouest du Danemark, un nouveau musée consacré aux exilés. Il s'agit de mieux raconter les histoires personnelles derrière la migration forcée. Le musée a été inauguré la semaine dernière dans une petite ville située sur la côte ouest du Danemark. Fin 2021, le monde comptait près de 90 millions de personnes réfugiées et déplacées internes, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, invité de Pluriel à 19h et 23h, et Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoires de Progrès. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient, et un très grand merci pour votre fidélité.